puisque nous sommes en compagnie de la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïz.
Peut-être deux réactions. La première, c'est qu'on peut quand même reconnaître que le président de la République a totalement transformé l'image de la France en Europe et dans le monde, et que plus personne ne voit la France comme un pays en déclin. Ça ne viendrait plus à l'esprit de personne de parler de déclin. On a une image dynamique d'un pays qui se transforme et qui pèse sur la scène internationale. Et on est maintenant l'image de l'Europe aux États-Unis. Donc c'est un atout.
On est l'image de l'Europe aux États-Unis.
On est l'image de l'Europe. Et quand vous écoutez les commentateurs aux États-Unis sur cette visite, le fait qu'Angela Merkel ait eu des difficultés à constituer son gouvernement, qu'elle ait perdu du poids, on voit bien qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron représente l'image de l'Europe dans le monde. C'est un premier atout. Deuxièmement, la diplomatie, ça n'est pas un match. Ça s'inscrit dans le temps long. Se faire des alliés, c'est de la confiance mutuelle. Et je trouve qu'on résume peut-être la visite de façon un peu caricaturale en estimant que par une conférence de presse, on va montrer qui a gagné tel point ou tel point. Attendons de voir dans le temps moyen et long ce que cela va infléchir éventuellement dans la politique américaine.
Il y avait malgré tout des signaux qui étaient attendus comme à chaque visite diplomatique. Et pour le coup, ces signaux, ils ont été attendus, espérés, mais ils ne sont pas venus factuellement.
Inscrivons-nous dans le temps de la diplomatie. Ça n'a jamais été une visite d'État qui transforme les alliances entre deux pays. L'alliance, elle est profonde. C'est ce qu'a voulu marquer le président de la République entre les États-Unis et la France. Et il faut une relation de confiance entre les hommes pour que la diplomatie s'oriente dans telle ou telle direction.
Vous avez décidé de vous inscrire dans le champ politique, Agnès Buzyn. Vous ne venez pas de la politique et vous êtes universitaire, vous êtes hématologue. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait un an que vous êtes ministre.
Bon, d'abord, la politique au sens noble, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié énormément. J'aime m'inscrire dans la vie publique et peser dans la vie publique d'un pays ou d'une politique publique comme celle de la santé ou des solidarités, c'est passionnant. Donc oui, je fais mon travail à la fois de professionnel en train de réformer avec la connaissance que j'ai de tel ou tel milieu, et je m'inscris aussi dans le monde politique avec ses difficultés.
Entre nous, un sentiment. J'ai lu par exemple que la ministre de la Culture trouvait qu'il y avait par exemple beaucoup de violence en politique. Vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a de la violence en politique, il y en a à l'hôpital aussi. Donc je viens d'un milieu qui est aussi assez violent. On parle beaucoup du harcèlement à l'hôpital, des difficultés du monde professionnel. Et tous les milieux peuvent être violents quand on les connaît. Le monde politique a ses codes. Il faut les connaître. Un des codes, c'est de jamais montrer de faiblesse. C'est la joute verbale. Il faut aimer l'art oratoire. Bon, on le découvre et on s'inscrit dans cette réalité nouvelle. Pour la ministre que je suis, je trouve ça très intéressant. C'est un challenge.
J'ai lu que vous étiez la caution de gauche d'Emmanuel Macron, c'est vrai?
Je ne crois pas que le président ait une caution de gauche. Le président, il a deux pieds. Il a deux pieds. Il marche sur deux pieds. Il a dit que sa politique, c'était une politique à la fois de liberté et de protection. Mon ministère par essence est le ministère de la protection, c'est le ministère de l'humain. Je m'occupe des solidarités, de la santé. Et donc, je dirais que ça ne peut pas être autrement pour une ministre des solidarités et de la santé.
Justement, ministère de la protection, tout à l'heure, à la suite de la chronique de Frédéric Saïz, vous disiez aujourd'hui, la France a une image dynamique. Mais bon, admettons, la France a une image dynamique. Mais justement, l'idée de faire de la France un pays avec des premiers de cordée, avec des gagnants, qu'est-ce qu'on fait des perdants? Et justement, dans le secteur qui est le vôtre, Agnès Buzyn, il y a des gens malades, des gens qui ont besoin de protection. Et on ne voit pas très bien, finalement, toujours où est la politique d'Emmanuel Macron pour ceux qui sont fatigués.
Alors d'abord, je n'aime pas le mot perdant quand on est malade ou quand on souffre d'un handicap. On a un moment de vie, par exemple, dans une maladie, on a un moment de vie à passer où on doit être particulièrement accompagné. Mais moi, je pense que chacun s'inscrit dans une trajectoire où il doit être reconnu pour ce qu'il est en tant que personne et ne pas être caractérisé par un handicap, on va en parler, ou caractérisé par le fait d'être malade. Et donc, je veux qu'on change ce regard. Ce regard, c'est que tout le monde, aujourd'hui, a le droit d'être considéré comme une personne, qu'elle ait une insuffisance à un moment donné pour s'inscrire dans une activité professionnelle ou elle mérite le même accompagnement, le même regard que n'importe quel citoyen. Et je veux qu'on arrête de parler de perdants. Je trouve ça horrible.
Mais sur le plan de la philosophie du macronisme...
La philosophie du macronisme, c'est justement d'être là pour protéger ceux qui ont, à un moment donné, besoin d'une attention particulière.
Vous trouvez vraiment que c'est ça ?
Mais c'est mon rôle aujourd'hui.
Justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est votre rôle, mais ça n'est pas nécessairement le rôle global. C'est-à-dire que vous soyez en quelque sorte une forme de caution de gauche, ça, je l'entends
mais,
bien.
Mais je suis extrêmement écoutée aujourd'hui par le président de la République. Toutes les réformes que nous menons aujourd'hui dans le champ de la santé, dans le champ de la pauvreté, puisque nous sommes en train de travailler sur une stratégie de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes, ce sont des politiques qui visent à mieux accompagner les personnes qui, à un moment donné de leur vie, vont avoir une difficulté et l'État est là pour leur mettre le pied à l'étrier.
Frédéric Seize.
Oui, sur la question du cannabis, j'aimerais vous entendre. Vous tenez un discours, évidemment, de prévention très fort à l'égard de cette drogue. On se souvient que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait un point sur l'usage du cannabis qui était de donner des amendes désormais à ceux qui en consomment. On ne parle pas ici de ceux qui en vendent, qui en revendent ou qui en achètent, qui en font commerce, mais cette idée d'une contravention, au lieu d'avoir des poursuites judiciaires pour les usagers du cannabis, est-ce que selon vous, ça ne peut pas aussi avoir l'effet d'encore plus libéraliser l'usage de cette drogue, de dire finalement ce n'est pas si grave psychologiquement ?
Au contraire, l'idée c'est d'être beaucoup plus efficace parce qu'aujourd'hui, le fait de poursuivre judiciairement des personnes qui consommaient du cannabis, qui était la loi actuelle, en fait n'aboutissait jamais. Il y avait beaucoup de consommateurs, la police et la justice ont autre chose à faire et en pratique, en fait, les personnes n'étaient jamais condamnées. Je ne parle pas des trafiquants, je parle des consommateurs. Donc le fait d'avoir une amende forfaitaire va faire qu'il y aura une réponse immédiate lorsque l'on prend en flagrant délit quelqu'un en train de fumer du cannabis. Ça permettra une prise de conscience que c'est aujourd'hui une consommation qui est illicite, qui est dangereuse pour la santé. Elle n'est pas illicite par principe, elle est illicite parce qu'elle est responsable de très nombreux accidents, notamment accidents de la route, parce qu'elle soumet nos jeunes aujourd'hui.
C'est dangereux
à
lorsqu'on est au volant, mais pour
c'est
le reste, Agnès
non,
Buzyn,
est-ce
que ça n'est pas de l'hypocrisie ? Est-ce que ça n'est pas tout simplement renchérir le coût de la barrette de shit, de donner une amende à ceux qui en consomment, sachant que plus de la moitié des jeunes consomment du cannabis ?
L'objectif, c'est quand même de freiner la consommation, et je voudrais revenir sur quelques chiffres. Aujourd'hui, les enfants et les jeunes ont bien conscience que le tabac, c'est dangereux pour la santé, et ils se sont reportés sur l'usage du cannabis sans se rendre compte que d'abord, le cannabis, c'était quand on en fume, ça a exactement la même toxicité que la cigarette, parce que c'est de la combustion, donc ça a la même toxicité pulmonaire, et en plus, ça entraîne des troubles cognitifs qui fait que nos jeunes aujourd'hui ont des difficultés d'apprentissage à l'école et à l'université, donc il faut être très ferme et avoir le même message de santé publique aujourd'hui sur le cannabis.
Frédéric Seize.
D'un mot, ce changement sera pour quand
Ça va être dans la loi de transformation de la justice que Nicole Belloubet défendra prochainement au Parlement.
Mais plus généralement sur la question donc de l'alcool, par exemple, Emmanuel Macron avait été assez libéral, disait qu'il buvait du vin à chaque repas, et il avait dit qu'il ne souhaitait pas renforcer les lois et vins parce qu'il ne voulait pas, citant Georges Pompidou, emmerder les Français. Vous n'avez pas l'air d'être vraiment sur la même ligne, Agnès Buzyn. Vous aimeriez bien qu'on ne consomme pas de vin du tout.
Pas du tout. Alors vraiment, un petit peu. Non, je ne suis pas une ayatollah. Absolument pas. Moi, j'ai une conception très claire de ce que doit être la santé publique. La santé publique, c'est donner à tout le monde des messages compréhensibles, une information transparente qui permette à chacun de faire les choix qu'il souhaite pour sa santé. Et donc, c'est de l'information. Et sur l'alcool, je veux une information transparente. Et je conçois tout à fait que l'alcool est un plaisir.
Un verre à chaque repas, c'est dangereux, puisque j'ai lu qu'il ne fallait pas consommer plus de 10 verres par semaine. Donc Emmanuel Macron court un risque.
10 verres par semaine, c'est effectivement la limite au-delà de laquelle il y a clairement une augmentation de la mortalité.
Donc notre président court un risque.
Mais je ne sais pas ce qu'il consomme.
Il a dit un verre de vin à chaque repas.
Je pense qu'il faut reconnaître à notre pays une culture du vin avec un savoir-faire et le fait que le vin peut être partagé dans des moments de convivialité. Et en même temps, il y a aujourd'hui 2,5 millions de Français qui souffrent d'une dépendance à l'alcool, avec la violence routière qui en découle, les violences faites aux femmes et aux enfants, parce qu'on ne le dit pas assez. aujourd'hui, les violences faites aux femmes et aux enfants, dans 50% des cas, c'est sous l'emprise de l'alcool. Et évidemment, toutes les pathologies, je vous passe évidemment les cancers, les pathologies cardiovasculaires, les cirrhoses du foie, etc. Donc, nous avons un problème de santé publique que nous devons traiter avec une meilleure information des jeunes sur le risque de dépendance à l'alcool. Et nous avons le droit de boire du vin de temps en temps, parce que nous sommes un pays qui aimons le vin. Et en même temps.
Agnès Buzyn, il est 8h30, vous venez dans les matins de France Culture, dans le cadre également d'une journée particulière. Cette journée particulière, elle s'appelle le Duodet. Vous allez nous expliquer ce qu'elle recouvre. Et vous êtes venu en compagnie de Marie-Aude Mortero, que je salue, bonjour. Vous allez nous la présenter et nous dire dans quel cadre s'inscrit ce qu'on appelle donc le Duodet.
Le Duodet, c'est pour changer de regard sur les personnes qui souffrent d'un handicap, qu'ils soient un handicap physique ou handicap psychique, et faire en sorte que notre France d'aujourd'hui soit plus inclusive. D'autres pays ont réussi à changer de regard, notamment les pays du Nord, avec une capacité à intégrer les personnes qui, à un moment, ont besoin d'un accompagnement particulier ou d'une mise en situation particulière pour pouvoir être intégrés dans la société. Et la France est très dure avec le handicap. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons travailler à une société plus inclusive avec Sophie Cluzel qui a pris à bras-le-corps, donc la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées, qui a pris à bras-le-corps ce sujet. La journée d'aujourd'hui va permettre de mettre en lumière toutes les initiatives locales ou d'entreprises qui ont permis cette intégration de personnes en situation de handicap.
Marie-Aude Mortero, justement, quel est votre regard sur la manière dont aujourd'hui la France accompagne les personnes malades, les personnes handicapées ?
Alors, bon, d'abord, je voulais remercier Madame la Ministre d'avoir accepté de jouer le jeu du Duodet avec moi aujourd'hui. Moi, je souffre d'un trouble psychique, je suis bipolaire. Je pense qu'en France, on a beaucoup de retard dans le domaine de la psychiatrie. Je suis pas connaisseuse sur les autres types de handicap, mais dans la psychiatrie, on a un peu de retard qu'on essaie de rattraper petit à petit. Par exemple, depuis une dizaine d'années, on utilise beaucoup plus le mot rétablissement. C'est une notion que les psychiatres et que les patients eux-mêmes commencent à prendre à leur compte. Le rétablissement, c'est quelque chose de possible. Il y a des solutions qui existent, des aides qui sont proposées. Et bon, moi, il y a un chiffre que j'ai envie de donner à nos auditeurs de ce matin. Selon l'OMS, il y a une personne sur quatre qui souffre ou qui souffrira de troubles psychiques en 2020. Donc c'est quand même énorme. Et pourtant, malgré ce chiffre, on continue de mettre ces personnes à l'écart avec beaucoup de préjugés, beaucoup de tabous. Et ça, c'est vraiment regrettable. Donc je pense qu'il faut vraiment arrêter les raccourcis qui sont une source d'exclusion parce qu'il y a des solutions qui existent et il faut les mettre en valeur. Je crois qu'il est vraiment temps de rétablir la vérité et d'accompagner ces personnes-là dignement, ce qui n'est pas toujours le cas encore.
Justement, vous, Marie-Aude Mortero, qu'est-ce que vous avez constaté dans la manière dont vous avez été soignée, bien soignée, mal soignée ?
Alors moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours. Bon, la bipolarité, elle a été diagnostiquée relativement tard, ce qui est souvent le cas dans ce trouble-là. J'ai 52 ans et j'ai eu dans ma vie de malade deux psychiatres en tout et pour tout. J'ai pas fait de tourisme médical comme d'autres en font.
Psychiatres de ville ou à l'hôpital ?
Alors, à l'hôpital. Et qui ont été remarquables. Après, sur le plan du traitement, c'est toujours un peu compliqué parce que il faut essayer parfois certaines molécules qui marche plus ou moins. Et là, j'avoue que depuis 9 ans bientôt, on a enfin trouvé les bonnes molécules pour moi et que du coup, je suis une citoyenne et une personne humaine rétablie, stabilisée, capable de retravailler, j'espère, bientôt, parce que j'ai un petit projet en cours. Voilà, je suis prête à retravailler et être exclue du monde du travail quand on est malade, c'est compliqué. Et pourtant, on peut être atteint d'un trouble psychique, que ce soit schizophrénie, dépression sévère, bipolarité, TOC, anorexie, etc. Et néanmoins, être un citoyen parfaitement intégrée dans le monde du travail et dans la société d'aujourd'hui.
Alors, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer donc sur les questions que vous connaissez, notamment sur le soin en matière de psychiatrie, Marie-Aude Mortero? Qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait apporter plus de réconfort et un rétablissement peut-être plus rapide aux patients?
Alors, moi, j'ai la chance, dans les réponses que j'ai envie de vous donner, j'ai envie de faire de la pub pour une association que je fréquente au quotidien qui s'appelle le Clubhouse. On peut trouver sur le site internet clubhousefrance.org pas mal d'informations. Et c'est en fait une association qui est assez unique puisqu'elle n'est pas médicalisée. Et je crois que nous, les malades, on a beaucoup côtoyé des structures médicalisées telles que les hôpitaux de jour, les CMP, les hôpitaux quand on doit être hospitalisé. Et cette structure, elle n'est pas médicalisée et néanmoins, elle est porteuse d'espoir. D'ailleurs, le slogan, c'est l'espoir en tête. Elle est porteuse d'espoir parce que c'est comme une passerelle entre le monde médical et le monde du travail. Elle vise à réinsérer les personnes socialement et dans le monde du travail aussi, dans le monde professionnel. Et du coup, il y a tout un travail qui est fait au quotidien pour que les membres qui passent par cette association puissent retourner à l'emploi dans des conditions solides, pérennes et stables pour eux, enfin encourageantes en tous les cas.
Agnès Buzyn, donc pour Marie-Aude Mortero, il y a eu effectivement un traitement efficace, un accompagnement satisfaisant. Néanmoins, la psychiatrie souffre en général. Alors, elle souffre notamment d'un manque de moyens, avec des situations qui sont assez alarmantes, avec là aussi différentes charges qui pèsent désormais sur la psychiatrie. Est-ce que il n'y a pas là un besoin d'apporter plus de financement et plus de financement rapide?
Alors, vous avez complètement raison. La psychiatrie et les besoins en santé mentale n'ont pas été anticipés, avec une discipline qui s'est écartée progressivement de la médecine. On voit bien que les établissements de santé mentale aujourd'hui ne souhaitent pas s'inclure, par exemple, dans les groupements hospitaliers de territoire, qu'il y a une difficulté à intégrer la psychiatrie dans la prise en charge globale des personnes. Or, c'est une nécessité. On peut avoir des pathologies médicales, somatiques et psychiques, et il faut que les deux se rejoignent. Il faut qu'on ait un accompagnement global. J'ai décidé, et je l'ai annoncé au Grand Congrès de la psychiatrie, renforcer les moyens de la psychiatrie, de renforcer notamment le nombre de pédopsychiatres, parce qu'une des difficultés que nous avons maintenant, c'est des prises en charge très tardives, un non-repérage des troubles chez l'enfant, ou une difficulté à adresser des enfants qui ont des symptômes à un pédopsychiatre, un psychiatre pour enfants, parce qu'il n'y en a quasiment plus sur le territoire, des délais d'attente qui sont incompatibles avec des prises en charge correctes et précoces. Et donc, pour moi, c'est vraiment une nécessité de réinscrire la psychiatrie comme une priorité nationale. Et donc, je prends le sujet à bras-le-corps avec tout un tas de mesures qui...
Comment ça pourrait se traduire concrètement?
Alors, évidemment, c'est des moyens, ce sont des postes supplémentaires, c'est une meilleure organisation territoriale en repensant la psychiatrie avec le reste des structures médicales. C'est une meilleure prévention du suicide qui reste aujourd'hui une spécificité française, avec un taux de suicide qui certes a diminué, mais qui reste encore trop élevé en France. Donc voilà, des moyens tout azimuts, je dirais, mais une prise de conscience absolue qu'il faut que la psychiatrie soit au rendez-vous des maladies de ce siècle qui, comme l'a dit madame, concernent quasiment un quart des citoyens.
Marie-Aude Mortero, vous avez dit que vous aviez eu la chance de rencontrer deux psychiatres qui vous avaient accompagné avec un traitement réglé de manière satisfaisante. Est-ce que, malgré tout, vous ne trouvez pas qu'il est compliqué d'avoir des rendez-vous à l'hôpital? Qu'est-ce que vous avez constaté en matière d'accès aux soins, puisque là, on a affaire à quelque chose qui, d'après les professionnels de santé, n'est pas à un niveau satisfaisant?
Alors, moi, j'ai eu de la chance, je dois avouer, dans mon parcours. Par contre, il y a un moment de mon histoire, j'avais entre les deux psychiatres, j'étais sans personne, et du coup, on m'a conseillé d'aller dans un CMP, centre médico-psychologique. Et là, ça a été compliqué parce que c'est le problème de la sectorisation. Je me suis retrouvée avec un psychiatre que je n'avais pas choisi et avec qui ça passait pas du tout. Les rendez-vous duraient 5 minutes 30. Il n'y avait pas de vision globale de ma personne. Et c'était
Et donc, dans ces conditions, on peut pas changer?
Alors, c'était compliqué pour changer, apparemment. On me l'avait attribué, voilà, d'office. Et heureusement, c'est par le biais de ma thérapeute que j'ai pu à nouveau avoir un suivi avec un psychiatre en hôpital. capitale, mais qui était vraiment compétent, enfin en tous les cas qui a su répondre à mes attentes.
Et sur le plan de votre vie matérielle, puisqu'on a compris que vous étiez en train d'opérer un retour vers l'emploi,
oui,
mais pour l'instant...
ça fait longtemps que je n'ai pas retravaillé, ça fait maintenant depuis 2009, donc c'est long. Et c'est vrai que sur le plan matériel, heureusement nous bénéficions de l'allocation adulte handicapé, mais je crois qu'il y a un projet qu'elle soit légèrement augmentée d'ici 2 ans. Donc ça, tous ceux qui en bénéficient, on va apprécier, bien sûr, mais ça reste quand même pour des Parisiens très modestes. Je crois qu'elle est actuellement autour de 810 ou 20 euros par mois. Donc vous imaginez, avec les loyers parisiens, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est vrai que toutes les personnes qui ont des troubles, des handicaps, que ce soit physique ou psychique, et qui bénéficient de cette allocation, c'est très peu. C'est très très peu. En même temps, voilà, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, par rapport à ce que vient de dire Madame Buzyn, c'est vrai que il y a une volonté d'aider financièrement la psychiatrie dans son ensemble, mais je pense qu'il faut aussi peut-être mettre le paquet sur la recherche en psychiatrie, parce que il y a des associations comme je sais pas si c'est une association, c'est une fondation, je sais pas, un organisme qui s'appelle Fondamental, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui travaille beaucoup dans le domaine de la recherche, et du coup on espère, nous malades, que peut-être un jour il y aura des traitements plus légers, ou pourquoi pas non médicamenteux. Enfin, je pense qu'il y a des choses à faire dans notre cerveau, là c'est toujours un peu complexe, mais on y croit encore, enfin voilà. Donc faut pas arrêter la recherche, faut vraiment la financer pour qu'ils aient des bons moyens d'avancer. Et je dis la recherche dans la psychiatrie, mais dans le monde médical en général, en fait.
Agnès Buzyn, sur la revalorisation de l'allocation pour les adultes handicapés.
Oui, vous me parliez tout à l'heure de ce qu'on faisait pour les... pour les personnes malades ou les plus fragiles. Les premières décisions que nous avons prises en arrivant au gouvernement, c'est une revalorisation de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse, qui vont être toutes les deux revalorisées de 100 euros en l'espace de 2 ans, avec des paliers. Donc, vous voyez que ces décisions-là, personne ne les met en valeur, alors que c'est une décision immédiate du gouvernement qui a été votée dans le premier budget. Donc nous sommes très attentifs justement aux difficultés de vivre avec ces minimums. Ensuite, madame a beaucoup insisté sur la recherche, elle a raison. Aujourd'hui, la recherche en psychiatrie ou la recherche en médecine doit être favorisée, parce que nous avons besoin de changer aussi nos pratiques, trouver d'autres traitements, peut-être moins agressifs, vous l'avez dit, que les médicaments qu'on utilise aujourd'hui en psychiatrie.
Pour les personnes handicapées, cette fois-ci des personnes handicapées physiques, il y a très peu de choses de faites en France pour l'accessibilité des lieux publics. Je vois par exemple dans les universités, c'est une catastrophe si on les compare avec les universités américaine, qu'est-ce que l'on peut faire concrètement et qu'est-ce que vous comptez faire, Agnès Buzyn, dans ce domaine-là?
Donc, c'est le plan qui sera présenté par Sophie Cluzel pour les personnes en situation de handicap. Il est nécessaire de progresser car effectivement la France a beaucoup de retard sur l'accessibilité, notamment des personnes en fauteuil roulant. Mais je voudrais rajouter que ça n'est pas la seule forme de handicap. Donc évidemment, il y a des efforts considérables à faire pour rendre accessibles tous les lieux publics. C'est très cher, ça prend du temps, mais ça n'est pas la seule...
C'est surtout en contradiction avec le souci de débarrasser un certain nombre de normes. On n'arrête pas de dire les normes sont embêtantes, etc. Emmanuel Macron l'a dit,
oui,
mais les normes aident aussi les personnes handicapées.
Et certaines sont indispensables, et celle-là, elle est indispensable, notamment d'avoir des chambres accessibles aux personnes handicapées physiques dans les hôpitaux, par exemple, parce que beaucoup de difficultés à accéder aux soins, nous l'avons remarqué, pour des personnes en situation de handicap, qui n'accèdent pas à certaines chambres ou à certains équipements médicaux. Donc, il est impératif, évidemment, de transformer cela. Mais je voudrais rajouter que le handicap n'est pas que le handicap visible. Et ça n'est pas que le fauteuil roulant. C'est pour ça que j'ai souhaité aujourd'hui être accompagnée de Madame Morterolle, parce que le handicap psychique, c'est un handicap non visible qui est investi, je dirais, dans nos politiques publiques. Il y a d'autres handicaps, évidemment, la surdité, la cécité. Donc, toutes les formes de handicap doivent être prises en compte.
Un mot de conclusion, Marie-Aude Mortero, si vous deviez justement lancer un message, parce que on a compris qu'il y avait aussi une question donc de reconnaissance de ces maladies et une manière aussi pour les autres personnes de vous accueillir comme vous êtes.
Bah écoutez, moi, ce que je trouve formidable aujourd'hui, c'est qu'on est aujourd'hui dans une journée particulière qu'on a appelée le duo D. Et j'ai envie de dire, pour que l'inclusion soit parfaite, il faudrait des duo-yeurs, et que vraiment, les handicapés, quels qu'ils soient, physiques ou psychiques, visibles ou invisibles, puissent vivre l'inclusion dans le monde professionnel sur du long terme et pas seulement sur une journée comme aujourd'hui, mais c'est déjà un bon début. Voilà ce que j'ai envie de dire en conclusion.
De sensibilisation.
Voilà.